Donc, nous arrivons à la quatrième communication de la matinée. C'est donc M. Charles Guérin, qui est professeur de littérature latine à Paris-Sorbonne, Paris 4, qui est un spécialiste de la rhétorique, à laquelle il a consacré pas moins de 3 livres depuis 2009, dont le dernier, qui est paru en 2015, La voie de la vérité, a été primé par l'Académie, avec le prix Georges Perrault. Et donc, il va nous parler, tout naturellement, je dirais, de l'équité dans la rhétorique. Vous avez la parole.
Si l'on cherchait à incarner l'existence d'une forme d'aequitas rhétorique, qui serait entièrement située hors du droit, comme nous y invite Dario Mantovani aujourd'hui, l'orateur Servius Sulpicius Galba serait un candidat très prometteur. Le premier livre du De Oratore de Cicéron, rédigé en 55 avant Jésus-Christ, nous rapporte une anecdote que l'on peut situer entre 143 et 137 avant Jésus-Christ, dans laquelle Galba, qui est alors un consulaire, accompagne au forum le jurisconsulte Publius Crassus Dives Mucianus pour lui marquer son soutien alors qu'il brigue une magistrature. En pleine rue, un campagnard aborde le jurisconsulte Crassus pour obtenir un conseil juridique. Il repart dépité, puisque Crassus, sur le vif, lui a fait une réponse qui ruine absolument toutes ses espérances. Mais Galba, à côté de lui, est un homme d'expérience, bien conscient des enjeux électoraux. Il rattrape le campagnard, il rattrape Crassus et tente de le ramener à la raison. « Et dis donc, lui dit-il, qu'est-ce qui t'a pris de lui faire une réponse pareille ?» Le cadre est posé, avec ce qu'il faut de caricature, bien sûr, pour fabriquer un exemple efficace. Le juriste formule son responsum informel en ne prenant en compte que la question qui lui a été posée. L'orateur, lui, réagit en prenant en considération les conséquences et les enjeux du moment. En bon orateur, il cherche à plaire, il pêche les suffrages et, en bref, il s'adapte. Mais Crassus ne comprend pas ce que lui veut Galba. Il s'entête et il réaffirme sa position. « Il n'y a, nous dit-il, aucune autre interprétation possible. » Galba va donc entreprendre de lui démontrer son erreur. Galba lui répondit sur un ton léger, en accumulant des exemples variés. Il s'appuya sur de nombreux cas analogues et il multiplia les arguments en faveur de l'aequitas. Il souligna, en l'opposant au droit, ou plus précisément en l'opposant à la lettre du droit. Crassus trouva refuge auprès des autorités et souligna que l'avis qu'il avait formulé se trouvait à la fois dans les ouvrages de son frère Quintus Mucius et dans les traités de Sextus Aelius. L'anecdote dessine donc deux espaces argumentatifs distincts. L'un, occupé par Crassus, semble clos sur lui-même et ne répondrait qu'à une logique interne en faisant appel à l'autorité d'autres juristes. L'autre sort de cet espace et prétend élargir la perspective en adoptant une approche non formelle, en exploitant des parallèles et en invoquant une aequitas que le texte, bien sûr, ne définit pas, mais qu'il présente comme un principe fondamental à défendre et qu'il place en opposition avec le ius afin d'en corriger les perspectives. Galba prétend donc argumenter dans un cadre indépendant du système de pensée qui est celui de Crassus et de ses autorités, et la scène, vous l'imaginez, entend illustrer l'efficacité de l'approche rhétorique. Crassus finira par reconnaître que la position de Galba, qu'on ne nous détaille pas, bien sûr, est probabilis, acceptable, voire vera, conforme à la réalité de la situation. Le mode argumentatif pro aequitate aura donc fait vaciller le jurisconsulte face à un orateur dont Cicéron nous dit par ailleurs qu'il est à Rome le fondateur de l'éloquence pathétique. L'aequitas surgit donc ici sous l'apparence d'un ressort argumentatif intimement lié aux compétences oratoires. Quelques lignes plus loin, le personnage du dialogue Marcus Antonius, maître de Cicéron par ailleurs, qui est celui qui raconte l'anecdote, va en tirer une leçon très simple. L'orateur peut se permettre d'ignorer l'essentiel du droit et se contenter de sa seule sphère de compétence, l'eloquentia. L'aequitas représenterait donc un cadre de pensée spécifiquement rhétorique, dont il faudrait bien sûr définir la nature. Mais bien sûr, la situation est un peu trop belle et la scène est totalement trompeuse. Pour être bien comprise, elle doit être reliée au grand schéma argumentatif traditionnel et Marcus Antonius rapproche immédiatement cet échange de la pratique pédagogique en nous rappelant que tous les enfants sont rompus à cette opposition puisque les rhéteurs leur enseignent, dans les affaires de ce genre, à soutenir tantôt la lettre, tantôt l'équité. L'opposition est donc décrite comme un exercice qui, fondamentalement, est réversible. La défense de l'aequitas n'est donc pas plus rhétorique que la défense du droit écrit. Et soyons certains que si Galba en avait ressenti la nécessité, il aurait immédiatement adopté la position inverse. La rhétorique ne vise donc pas systématiquement à défendre l'équité par défaut, comme on a souvent voulu le croire, et la equitas n'est assurément pas une notion qui lui appartiendrait en propre. Elle est un outil qui croise droit, philosophie et théorie de l'argumentation. Mais pour autant, bien qu'elle soit extrêmement composite, cette notion va jouer un rôle structurant dans l'essentiel de la doctrine, et la difficulté pour nous, bien sûr, est de saisir le sens de cette notion structurante, extrêmement malléable, puisque les rhéteurs ne cherchent jamais à la définir et que, bien sûr, ils la présentent comme une évidence. Cette difficulté est d'autant plus grande que la rhétorique n'est pas une doctrine homogène. Elle n'existe pas avec une majuscule en tant que doctrine. Et l'état très partiel de nos sources nous prive, par ailleurs, de la majeure partie de la réflexion des spécialistes sur ce point. Mais le De Oratore, le même texte, donc, en donnant à Marcus Antonius un contradicteur dans le personnage de Lucius Licinius Crassus, qu'il ne faut pas confondre avec notre jurisconsulte, nous fournit un point d'articulation central de la notion dans la pensée rhétorique, le rapport qu'entretiennent l'argumentation en équité et l'argumentation en droit. Pour Antoine, on l'a vu, les deux espaces sont totalement indépendants. Pour Crassus, ils seront indissociables. Et c'est entre ces deux pôles extrêmes, celui d'une autonomie complète et celui d'une dépendance absolue des deux champs du droit et de l'équité, que la réflexion rhétorique va s'articuler entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ, qui constitue l'empan de mon étude, et que la rhétorique, par ce balancement, finalement tracera une voie moyenne pour réfléchir aux usages argumentatifs de l'équité qui m'intéresseront aujourd'hui. Après avoir précisé ce que la rhétorique latine peut entendre par aequitas, en m'appuyant sur la doctrine de l'argumentation, je vous proposerai de suivre nos auteurs dans trois directions différentes. La première, tracée par Galba, est celle de l'opposition entre équité et droit. Elle sera systématiquement rejetée par nos auteurs. La deuxième, dans laquelle les rhéteurs et les orateurs utilisent l'équité pour orienter la lecture de ce que les juristes leur présentent. Et une troisième, où les orateurs exploitent l'équité pour dépasser le droit écrit et invoquer des principes qui ne contredisent pas ce droit, mais qui le fondent. Enfin, la tradition pédagogique me permettra de montrer que, tout en paraissant opposer systématiquement jus et aequitas, les exercices qui sont proposés aux enfants par les rhéteurs maintiennent très fermement les conceptions du 1er siècle avant Jésus-Christ que j'essaierai de vous décrire. La théorie post-hellénistique de l'argumentation fait toujours appel à une version quelconque de ce que l'on appelle la doctrine des états de la cause. Les états de la cause constituent un arbre de choix qui permettent à l'orateur, lorsqu'il est confronté à une question, de déterminer quelle posture va lui permettre d'être le plus persuasif. Vous avez sous les yeux une version de la doctrine qui, malgré les apparences, est une version simplifiée, que j'emprunte à Quintilien, le grand rhéteur du 1er siècle après Jésus-Christ. Imaginons une accusation. Scipio Nasica est accusé d'avoir porté atteinte à la majesté du peuple romain en tuant Tiberius Gracchus. Le plaideur va pouvoir adopter l'état conjectural en refusant de reconnaître le fait. Je ne l'ai pas tué. Deuxième possibilité, il reconnaîtra l'existence du fait, mais fera porter le débat sur la définition qu'il faut en donner. J'ai tué Tiberius Gracchus, mais la majesté du peuple romain n'est pas ce que mon adversaire en dit. Troisième possibilité, celle qui m'intéressera, l'état de qualification ou de qualité. On accepte l'acte, on accepte sa définition, on cherche à montrer que l'acte et sa définition, qu'on ne discute plus, étaient ou non légitimes. Et le débat va porter sur la caractérisation du fait. Certes, j'ai tué Tiberius Gracchus, j'ai peut-être porté atteinte à la majesté du peuple romain, mais mon acte était légitime. Dernier état, l'état déclinatoire où on conteste la validité de l'action intentée. Les rhéteurs considèrent que l'état de qualification est le mode de démonstration rhétorique par excellence. Il suppose de modifier la perception que le public peut avoir de la valeur d'un acte ou d'un objet. Dans cette configuration, l'orateur doit faire apprécier la légitimité ou l'illégitimité de l'élément qui est mis en débat, soit en s'appuyant sur les difficultés que posent les textes de loi, ce que l'on appelle la pars legalis, soit en prenant en compte le fait lui-même et lui seul, la pars absoluta, soit en s'appuyant sur les circonstances, la pars adsumptiva. C'est dans ce cadre que l'aequitas va être exploitée. Je m'appuierai pour commencer sur les partitions oratoires et les topiques de Cicéron, deux traités rédigés au milieu des années 40 avant Jésus-Christ, qui nous donnent une approche à peu près synthétique du problème. Les partitions oratoires établissent que toute argumentation en état de qualité repose sur le ius, le droit, dont les principes se divisent en deux parties, droit divin et droit humain, le droit humain se trouvant immédiatement assimilé à l'aequitas, puis divisé en deux catégories, l'une commune à la nature et la loi, l'autre propre à la loi seule. La catégorie commune fait alors apparaître une deuxième fois l'équité sous l'espèce de laequum. Elle est donc entendue comme catégorie générale, principe du droit humain, et comme espèce de celui-ci, ce que Cicéron, par ailleurs, appellera pour la catégorie générale le genus et pour l'espèce la forma. Les topiques, le deuxième texte des années 40, abordent l'équité au plus haut degré de généralité possible dans le cadre de ce que la rhétorique appelle les questions indéfinies, soit une approche très abstraite de l'argumentation, quasi philosophique. On va y réfléchir à la question « Est-il légitime de tuer un tribun séditieux ?» plutôt qu'à la question « Nasica pouvait-il tuer légitimement Tiberius Gracchus ?» L'argumentation va se répartir en trois catégories. L'utile, de expectendo fugendoque, l'honorable et l'équitable, de aequo et iniquo. Conformément à la méthode qui est propre au topique, Cicéron ne définit pas l'aequitas, il se contente de déployer les éléments qui la composent, en expliquant dans quel domaine thématique, dans quel topique l'orateur va puiser pour argumenter. Si la discussion, nous dit Cicéron, porte sur ce qui est équitable et inique, on passera en revue les lieux de l'équité. On en distingue deux catégories, l'une dépend de la nature, l'autre des institutions. L'équité fondée en nature possède deux parties, l'attribution à chacun de ce qui lui revient et le droit de se venger, ou le droit de punir. L'équité institutionnalisée comporte trois parties, la première correspond à la loi, la deuxième aux conventions, la troisième s'appuie sur l'ancienneté des coutumes. Cicéron donne ici trois sens différents à l'aequitas. Le premier est englobant, il correspond à la ratio iuris que nous avons rencontrée dans les partitions oratoires et traduit l'idée de juste, selon une équivalence qui va se stabiliser dans la doctrine quand il réfléchit sur la qualitas. Quintilien reprend la même division que Cicéron, mais l'a fait pour sa part dépendre du justum, marquant ainsi la proximité, voire quasiment l'assimilation des deux notions. Le second sens de l'équité dans les topiques définit une aequitas naturelle qui consiste en une variation sur les principes de répartition et d'équilibre. L'attribution à chacun de ce qui lui revient, tributio sui cuique, et le droit à la vengeance, ius ulciscendi. Le ius ulciscendi, qui renvoie à un principe de justice corrective, fournit un argument, vous le verrez, qui sera fréquemment employé dans nos textes, mais qui suscite très peu l'intérêt spéculatif de nos auteurs. Il n'en va pas de même de la tributio sui cuique, présentée, comme Dario Mantovani l'a rappelé tout à l'heure, comme le fondement même de la vie en société dans l'œuvre philosophique de Cicéron, et qui exprime à première vue un principe de justice distributive et d'égalité géométrique. Mais cette tributio sui cuique, dans la philosophie cicéronienne, se trouve liée également à un autre principe, l'abere sum cuique licere, qui impose de garantir à chacun la préservation de ce qu'il possède. Et c'est presque sous ce seul angle que le Deophikis, texte contemporain des topiques, aborde la question de l'équité. Ainsi, lorsque Cicéron aborde l'aequitas d'un point de vue philosophique et politique, elle est largement conçue comme un impératif de protection. Cet aspect apparaît uniquement de manière implicite dans la constitutio aequitatis, l'aspect institutionnel de l'équité, celui qui se trouve à droite de mon tableau. En effet, le sens exact de l'aequitas dans ce passage, lorsqu'elle est abordée en dehors de la natura, n'est pas précisé. Cicéron nous dit qu'il l'ancre dans la loi, les contrats et la coutume. Mais l'expression qui est employée, institutio aequitatis, peut être rapprochée d'une définition fournie au paragraphe 9 de ce texte, qui fait du jus civile la fixation d'une aequitas, elle-même définie comme conservation, c'est ce qu'exprime le verbe obtinere, de ce qui lui appartient par chacun des membres d'une même communauté politique. Le principe d'équilibre, fondé en nature, est donc exprimé comme principe de conservation dans les règles que se donne la collectivité. Mais quand il rédige ces deux traités, Cicéron n'invente pas les notions qu'il nous présente. Il les reconfigure et il en fait un usage systématique. Il est donc nécessaire de s'interroger sur l'existence préalable de ces différents sens. De toute évidence, le traitement de l'équité comme format, donc comme ici espèce finalement de la catégorie générale, fait fond sur une autre topique très traditionnelle, variable, mais toujours présente dans la doctrine, celle des sources du droit, qui sont toujours présentées par les manuels et les traités rhétoriques dès qu'il s'agit de raisonner sur la qualité de l'acte jugé. Je partirai d'un texte rédigé par le jeune Cicéron aux alentours de 84 avant Jésus-Christ, qui s'intitule le De Inventione, sur l'invention, donc en substance sur les techniques d'argumentation, qui distingue, de façon peu surprenante bien sûr, trois grandes sources du droit, la nature, la coutume, consuetudo, et la loi. La notion d'équité n'émerge dans cette structure que dans l'espèce du par, que j'ai indiqué en rouge à droite, qui consiste à être in omnes aequabile, à être égal envers tous, principe qui semble annoncer celui de l'équilibre, de la distribution et de la préservation présenté par les topiques. L'adjectif par, dans le Deophikis, que je mentionnais tout à l'heure, sert d'ailleurs à caractériser l'attitude d'Aratos de Sicyone, qui fut capable d'accorder la partie spoliée, la partie spoliatrice de la population de la cité, 15 ans après une guerre civile, en mettant en place un système de compensation financière pour les uns et les autres. Dans cette structure, l'équité est donc une simple forma, une espèce, et ce principe d'équilibre, vous le voyez, n'est pas encore relié par Cicéron à la natura, qui en revanche englobe bien le droit à la vengeance exprimé ici par la vindicatio. Ainsi, la justice distributive se trouve rattachée aux institutions, la justice corrective à la nature, et l'on comprend qu'en 84 avant Jésus-Christ, la notion conçue de manière systématisée et unifiée par les topica n'est pas encore pleinement en place. Tournons-nous à présent vers l'autre témoin de la rhétorique des années 80, la rhétorique à Irénus, un texte anonyme qui précède le De Inventione de 2 ou 3 ans et qui présente une liste similaire qui est structurée néanmoins de façon un peu différente. Elle regroupe la nature, la loi, la coutume, le précédent judiciaire, l'équité et les conventions. Vous voyez que l'équité n'apparaît pas ici comme ratio iuris englobante comme dans les topiques, qu'elle est une source du droit, une forma, et qu'elle ne se trouve reliée ici ni au droit naturel, ni à l'institution. Elle forme un principe indépendant qui désigne la prise en compte de la réalité concrète d'une situation, aequum, et de l'intérêt général, bonum, comme mesure de la création d'une règle. Le droit, nous dit l'auteur anonyme, est fondé sur l'équité quand il semble répondre à la réalité de la situation et à l'intérêt général. Exemple, se faire représenter quand on a plus de 60 ans ou que l'on invoque des raisons de santé. La référence qui est convoquée par la rhétorique Irénus marque l'ancrage de cet aequum dans des pratiques et des réflexes qui sont bien installés au 1er siècle après Jésus-Christ. Ici, le cadre est celui du droit prétorien. Donc, contrairement à Cicéron qui fait du par un principe très abstrait, l'auteur de la rhétorique Irénus aborde l'aequum comme une méthode qui permet de mettre ce principe en action. Certes, cette méthode n'est pas directement utilisable par l'orateur, puisque celui-ci ne dit pas le droit, mais elle va lui fournir des arguments. Et cette capacité à établir un lien correct entre la norme et le réel est précisément la vertu que les orateurs vont attendre de leur juge et même exiger d'eux. Elle jouera un rôle capital par la suite, mais son absence dans les topiques et les partitions oratoires nous montre encore une fois que l'approche de l'équité n'est pas totalement homogène au 1er siècle avant Jésus-Christ dans la doctrine. Enfin, en ce qui concerne l'idée d'une aequitas, qui se situerait à un niveau plus général que celui de la source du droit, elle se rencontre aussi dans d'autres passages de ces deux mêmes textes. Dans le cadre de sa réflexion sur l'éloquence délibérative, l'éloquence politique, donc, la rhétorique Irénus définit en effet la justitia à partir d'une aequitas consistant à attribuer à chaque chose ce à quoi elle a droit en fonction de son mérite. Le principe de juste distribution, que la rhétorique à Irénus ne faisait pas intervenir dans les sources du droit que je vous ai montrées à l'instant, apparaît donc finalement. Le De Inventione, c'est mon deuxième texte, fait de même, et il définit la justitia sans évoquer la equitas, mais simplement l'idée d'habitus animi, on est toujours dans le cadre d'une conceptualisation des vertus, mais il récupère le principe de répartition et le principe d'intérêt général qui étaient exploités par l'auteur anonyme pour nous dire que la justice est la disposition d'esprit consistant à attribuer à chacun ce qu'il mérite tout en préservant l'intérêt général. Ainsi, la tributio sui cuique représente dans ses premiers textes un principe général d'ordre politique et qui est totalement adéquat à la réflexion philosophique que Cicéron développera par la suite. La doctrine rhétorique exploite donc au 1er siècle un fond conceptuel stable, mais qu'elle articule de manière très variable. Ce fond conceptuel, si j'ose une synthèse, s'organise en trois grandes catégories qui vont du plus abstrait au plus concret. Dans son sens le plus général, la equitas désigne le principe du jus, ratio iuris. Cette ratio englobante s'appuie ensuite sur des fondements qui donnent à la equitas des sens plus précis. Le premier est présent dans tous les textes rhétoriques et fait de l'équité un principe distributif, fondé tantôt sur la nature, tantôt sur les institutions. Ce principe peut être exaucé au niveau d'une vertu d'ordre politique, on le voit ici, et se trouve relié à l'exigence de préservation de la propriété. Il est ensuite directement traduit par les institutions. Second sens, moins central dans la théorie, puisqu'il est parfois indépendant de la mention de l'équité, la justice corrective. Enfin, troisième sens, représenté par l'aecum et bonum de la rhétorique à Irénus, qui régit la production du droit en le fondant sur la prise en compte du réel. L'articulation entre la ratio iuris, les fondements de cette ratio, et l'institutio aequitatis, la traduction de l'équité dans les institutions, trouve un écho très clair dans le De Inventione de Cicéron, où notre auteur distingue deux configurations différentes. L'une, alors ces configurations sont très mal nommées par Cicéron, il y a un gros problème philologique dont je vous épargne le détail, mais qui tient à des difficultés de traduction de la version grecque de la doctrine. Cette articulation donc est signifiée par la création de deux catégories. L'une est dite négotialis, par factuel, qui va supposer, c'est un peu contre-intuitif, un débat sur un point de droit, et où on va examiner le droit d'après la coutume de la cité et d'après l'équité. L'autre configuration, nommée pars juridicialis, espèce judiciaire, laisse de côté la discussion du droit pour lui-même et prétend rechercher la nature de l'équitable et du juste. Dans la part factuelle, l'équité va servir d'outil d'interprétation. Dans la part judiciaire, l'équité va devenir un support argumentatif directement exploitable. Je partirai de cette équité définie comme instrument dans la pars negotialis, ou dans le De Inventione, Cicéron nous laisse un peu sur notre faim, puisqu'il nous explique que pour mener à bien cette pars negotialis, il suffit à l'orateur de se reporter aux sources du droit. Et le développement s'arrête là. C'est donc vers le corpus oratoire qu'il faut se tourner si l'on veut comprendre le détail de la démarche, et je vous propose d'exploiter le Procaecina de Cicéron, prononcé en 68 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un discours qui défend les intérêts du malheureux Caecina à la suite de la contestation d'un héritage, puisque Caecina a été empêché de pénétrer dans sa propriété par des hommes qui avaient été apostés là, par Sextus Aebutius. Sextus Aebutius qui prétend de ce fait récupérer un bien dont il aurait hérité. Ces hommes n'ont pas des intentions bien pacifiques, vous l'avez compris. La question centrale de ce texte est celle de l'interprétation du récent édit prétorien Unde ui armata, qui concerne l'expulsion violente d'une propriété par une troupe armée. Cet édit peut-il s'appliquer, malgré la différence évidente entre les faits jugés et la formulation de l'édit, qui suppose qu'on ait contraint le plaignant à quitter un endroit par la violence, et non pas qu'on lui ait simplement refusé l'entrée dans une propriété où il ne se trouvait pas. Face à ce jus dubium, cette hésitation sur le sens du droit, l'orateur va mobiliser une argumentation par l'équité. Reste à déterminer le sens que prend cette équité dans cette configuration. Elle nous est présentée de deux manières différentes dans le discours. La première existe de façon totalement indépendante par rapport à la loi. L'autre ne se comprendra qu'en relation avec elle. La première instance, indépendante de la loi, est présentée par Cicéron comme une qualité intrinsèque aux choses et aux situations, et une qualité que l'on perçoit de façon instinctive. Cicéron évoque ainsi l'aequitas de sa position, aequitas defensionis, ou l'aequitas de la situation de son client, aequitas rei. Et il signale qu'une situation peut naturellement se montrer pleine d'aequitas. Il s'agit ici, bien sûr, d'exploiter une topique, une série d'arguments préfabriqués que l'on opposerait en bloc à la lettre du texte de droit. Cicéron décrit la méthode directement comme un pis-aller qu'il aurait exploité pour justifier la possibilité d'une défense totalement détachée de la lettre de l'interdit, mais qu'il va rejeter, je vous rassure. J'employais, nous dit-il, de nombreux exemples, sans oublier toute la topique de l'équité, materia aequitatis, selon laquelle, dans de nombreuses affaires, le droit et le principe de l'équitable étaient séparés de la lettre du texte et que toujours avait prévalu ce qui présentait par soi-même le plus d'autorité et le plus d'équité. Cette materia, vous le voyez, nous renvoie directement aux arguments de Galba. Elle se fonde sur l'idée d'une équité indépendante de la lettre du droit, mais qui pointerait vers des exigences supérieures que l'on percevrait indépendamment du scriptum. Ce développement ne permet pas de préciser davantage la notion d'aequitas. Si l'on se reporte au manuel, on nous dira que pour pousser dans ce sens qui nous est décrit ici, il faut faire feu de tout bois, invoquer l'aequitas causae, qui n'est pas plus défini, ou exploiter tous les lieux communs, Cicéron nous dit, que j'ai déjà cités. Donc, évidemment, on manque ici de détails. Mais cette absence de détails n'est pas si surprenante, puisqu'en réalité, Cicéron va évacuer cette méthode, la présenter comme inefficace et en adopter une autre. La démarche qu'il va adopter en réalité fait de l'aequitas non plus une évidence à constater dans la réalité, mais un fondement méthodologique. On va l'utiliser comme point de référence, non pas pour contester le texte, mais pour le comprendre. La méthode suppose un travail interprétatif. Puisque cette aequitas dépend du texte de l'interdit, et non des faits eux-mêmes, elle impose de percevoir le principe d'équité que contient le texte, intelligere aequitatis rationem. Il faut ainsi faire une lecture qui, d'après Cicéron, se conforme au principe du droit qu'il nomme à nouveau dans ce texte ratio iuris. Il s'agit de prendre en compte le scriptum, mais de ne pas se laisser paralyser par les mots qui le composent. Faire fond sur l'équité va donc revenir à comprendre ce que le texte cherche véritablement à instituer. En l'espèce, la norme générale que l'interdit tente de faire appliquer et la dynamique sociale qu'il cherche à mettre en œuvre. Soit ne pas laisser sans recours les victimes d'actes de ce genre et leur attribuer ce à quoi ils ont droit. Par une démarche analogique très contestable du point de vue de l'analyse juridique de l'interdit, mais qui est fondée sur un schéma rhétorique qui est bien recensé et qu'on nomme la ratio quinatio, Cicéron entend montrer que, selon la ratio aequitatis présente dans l'interdit, empêcher un individu d'entrer dans une propriété où il n'avait jamais mis les pieds équivaut à le chasser d'un lieu où il aurait été installé depuis longtemps. Non alia causa aequitatis. Reste à déterminer, bien sûr, comment Cicéron s'y prend pour déterminer cette ratio aequitatis à l'intérieur de son texte. Il signale qu'il faut d'abord rechercher la nature du fait visé par l'édit, quelle que soit la manière dont celui-ci se trouve désigné. L'enjeu de cette lecture très rhétorique est de partir du texte pour s'exaucer à une catégorie générale et d'effectuer ensuite un va-et-vient entre la règle et le réel pour établir une juste relation entre la règle et l'action mise en jugement. En opposant le droit, ius, et l'arbitraire, libido, Cicéron formule le principe suivant : le droit proclame que c'est le fait, le sens de la loi et l'équité qui doivent avoir le plus de poids. L'arbitraire proclame qu'il faut tordre le droit en s'attachant aux mots et aux lettres. Le ius serait donc fondé sur trois éléments : la situation effectivement visée par la règle, le sens de cette règle, sententia, et l'aequitas, qui désigne ici la mise en correspondance de la règle bien comprise et de la situation. Entendu comme principe, l'aequitas n'est donc pas invoqué contra ius, comme chez Galba, Mais comme dans la démarche topique que Cicéron décrit, ni comme le fait Galba, ni comme Cicéron le proposait dans sa démarche topique, dont il nous dit qu'elle est inefficace. Ce qu'il nous propose ici, c'est un usage parfaitement conforme à ce qu'il nous dit dans les topiques et dans les partitions oratoires. L'equitas, pour l'orateur, représente la ratio iuris et elle est exprimée par le texte qui le contient. Nul besoin de contester le texte, il faut simplement apprendre à le lire. Et c'est bien sûr tout l'enjeu rhétorique et persuasif du discours que d'imposer la lecture qui convient. Entendu comme méthode, l'équité est d'abord mise en relation raisonnée entre un fait et une règle, et absolument pas la reconnaissance d'un aequum intrinsèque. L'usage rhétorique que Cicéron défend ici consiste donc à exploiter l'aequitas en lien étroit avec le droit. La pars juridicalis, la partie judiciaire, donc indépendante du droit, telle qu'elle est décrite par Cicéron, vise à rechercher quelle est la nature de l'équitable et du juste. Et les rhéteurs, il faut l'avouer, ont quelques difficultés à exposer le rôle argumentatif de cette recherche, le De Inventione nous fournissant aucune précision sur ce qu'est l'aequinatura ou sur son champ d'application, si l'on souhaite aller au-delà des sources du droit. Les topiques, on l'a vu, inséraient l'aequitas dans une série plus large, qui incluait l'utile et l'honorable, mais elle ne nous disait pas non plus quand il fallait choisir l'un ou l'autre, ni ce qu'il fallait en faire. C'est la rhétorique à Irénus, encore une fois, qui va nous offrir la présentation la plus claire. Pour l'auteur anonyme, les sources du droit, et donc l'aequitas, ne seraient applicables qu'à la seule partie absolue de la qualification, c'est-à-dire la partie où on cherche à justifier l'acte par lui-même. Dès que l'on s'appuierait sur les circonstances extérieures à l'acte, alors l'invocation de l'équité perdrait toute efficacité et on aurait besoin d'autres leviers. La rhétorique à Irénus nous propose de présenter l'acte défendu comme utile, honnête, facile, avantageux, et surtout, c'est important, il nous propose de faire appel à un ensemble de lieux communs qui vont supposer des amplifications pathétiques, le lieu de l'atrocité du crime, par exemple, ou l'appel à la pitié. D'après l'auteur, l'équité aurait un champ d'application très réduit, la description de l'acte en lui-même, et surtout parfaitement distinct des autres topiques employables en argumentation de qualitate. Reste à déterminer comment on peut l'utiliser. Le Promilone de Cicéron est un discours prononcé en 52 avant Jésus-Christ dans une affaire de violence publique, et il nous propose une argumentation qui, il me semble, pourrait nous éclairer. Milon, au cours d'une rencontre qui a fort mal tourné, a tué son adversaire de toujours, Publius Clodius. Accusé d'éoui, de violence publique, il est défendu par Cicéron en état de qualité, il faut bien reconnaître le fait et il faut bien en reconnaître la définition, et cet état de qualité est présenté selon deux modalités. D'abord, une argumentation principale qui va chercher à établir que la mort de Clodius a eu lieu conformément au droit, et qu'elle correspond à ce que l'on désignerait aujourd'hui comme légitime défense. Cicéron tente d'abord de s'appuyer sur la loi des loups stables, qui autorise la mise à mort des voleurs nocturnes et des voleurs diurnes quand ils sont armés. Mais hélas, la distance aux faits jugés est si grande qu'il ne parvient pas à produire une analogie correcte entre la règle de droit et la situation. Il va donc avoir recours à autre chose qu'au jus scriptum et invoquer directement la loi naturelle. Cette loi existe, juge. Elle n'est pas écrite, elle est naturelle. Elle prescrit que si notre vie est confrontée aux pièges, à la violence, aux armes des voleurs ou des ennemis, tous les moyens d'assurer notre sécurité sont moralement justifiables. Et Cicéron emploie donc ici le lieu du jus ulciscendi, fait référence, bien sûr, à l'équilibre face à la menace qui pèse sur nous. Et sa démarche argumentative sera très simple. Elle consistera à souligner la coïncidence entre l'acte de Milon et cette source du droit. À partir de là, qu'aura-t-il à démontrer ? Simplement que c'est l'adversaire qui, le premier, a lancé l'attaque et que Milon n'a fait que répliquer, conformément à l'aequi natura. Succède à cette argumentation un développement supplémentaire qui exploite les autres versants de la qualité en proposant deux autres justifications. Milon, ainsi, aurait accompli un acte honorable en tuant Clodius puisque celui-ci avait commis de nombreux méfaits. 15 paragraphes nous les rappellent et nous les décrivent avec force pathétique. Il aurait également fait œuvre utile en éliminant un personnage qui menaçait la stabilité d'une cité, Rome, qui était dépourvue des moyens légaux d'agir contre lui. Ces passages déploient, dans les deux cas, un appareil pathétique complet, des amplifications, des étopées, des prosopopées, qui n'apparaissent jamais dans le développement principal qui consiste à défendre l'aequitas. Il me semble donc que le Promilonae fixe une architecture qui associe aequitas, honestas et utilitas, les trois catégories des topiques. Il donne à l'argument par l'équité un sens très précis, celui de principe de correction. Et enfin, il nous montre qu'argumenter à partir de l'aequi natura revient à mettre en coïncidence l'acte et un aspect de l'aequum entendu comme source du droit. Comme dans la pars negotialis, l'équité a une relation non conflictuelle avec le droit, qu'ici, elle se contente de dépasser pour remonter à ses premiers principes. Néanmoins, et c'est là que l'affaire devient complexe, la stricte distinction entre ces trois catégories n'est pas toujours aussi claire. Et la tradition rhétorique va donner progressivement à l'aequitas une position surplombante et faire d'elle un opérateur général de l'argumentation par la qualité, et donc lui faire recouvrir à la fois utilitas, honestas et aequitas. Ainsi, d'après les partitions oratoires, répondre à une accusation par la qualité revient à aequitatem oponere, invoquer l'équité, par opposition, vous le voyez, à la conjecture et à la définition. L'équité recouvre alors tous les types d'argumentation en qualité possible, un emploi générique qui certainement fait écho à la définition traditionnelle de l'éloquence judiciaire comme type d'éloquence visant à l'aequitas, mais dont il faut malgré tout reconnaître qu'elle brouille les frontières de la notion telle que nous les avons déjà rencontrées. Comment comprendre ce regroupement apparent de l'utile, de l'honorable et, bref, de toute la qualité sous la seule catégorie de l'équité? Pour répondre à cette interrogation et pour terminer mon parcours, je dois me pencher sur les pratiques pédagogiques des débuts de l'Empire, où on va retrouver très nettement cette tendance. Les déclamations de discours fictifs qui préparent les élèves des rhéteurs à l'éloquence judiciaire s'organisent en effet dans la plupart des cas selon une grande division où l'affaire est successivement traitée selon le jus, puis selon l'aequitas, de manière indépendante par rapport à l'état de cause qui a été choisi. Les corrigés scolaires, qui sont rassemblés dans le corpus des petites déclamations du pseudo-quintilien, un corpus du IIe siècle après Jésus-Christ, insistent très fréquemment sur cette distinction fondamentale et signalent nettement le passage d'une partie à l'autre. « Voilà pour le droit, dit le professeur, passons à l'équité. » Et dans la déclamation, le terme « aequitas » va désigner une partie du discours, qu'on appellera également « tractatio », le traitement, et c'est dans cette partie que les rhéteurs présenteront des arguments indépendants de la loi positive. La lecture qui est faite fréquemment de ce phénomène consiste à nous dire que les rhéteurs ont vidé l'aequitas de tout son sens et qu'ils l'opposent en bloc au jus. Mais cette lecture passe sous silence le fait que Cicéron a déjà fabriqué cette équivalence entre qualité et équité. Je voudrais donc achever mon développement en vous montrant rapidement que les usages pédagogiques de l'aequitas maintiennent en réalité les sens fondamentaux de l'équité rhétorique et que la valeur englobante du terme s'interprète en parfaite continuité avec la doctrine antérieure. Je vais m'appuyer sur deux cas, très courts, je vous rassure, tirés des déclamations mineures, qui, pour le premier, semblent diluer le sens de l'équité et pour l'autre, le renverser. En premier lieu, la mineure 270, intitulée « La jumelle violée ». Le sujet contient l'énoncé d'une loi fictive, le récit d'un cas pratique et un point à juger. Que celui qui a causé une mort subisse la peine capitale, c'est la loi fictive. Il y avait deux jumelles. Un jeune homme viola l'une d'elles. Elle se pendit. Le père amena l'autre auprès du magistrat et lui ordonna d'opter pour la mort du violeur. Le jeune homme crut que c'était celle qu'il avait violée. Le magistrat ordonna de le mettre à mort. Ensuite, on découvrit ce qui s'était passé. On accuse le père d'avoir été cause de la mort. Le professeur va proposer un plan très classique. D'abord, raisonner sur le droit en démontrant que le père, au sens de la loi, n'est pas causa mortis. la démarche employée correspond formellement à celle du procaequina. Vient ensuite la partie qui nous intéresse, celle que le rhéteur nomme aequitas dans ses indications liminaires, mais que sont corrigées, c'est-à-dire le texte qu'il propose comme déclamation, nomme paterni affectus, les émotions paternelles. Et donc, ce corrigé nous présente l'aequitas, la partie nommée aequitas, comme un développement strictement pathétique. Le père amplifie sa souffrance. Cette assimilation de l'équité aux passions semblerait confirmer la dégradation que la déclamation ferait subir à nos principes. Mais malgré les apparences, le professeur a une vision extrêmement claire de ce qu'est l'aequitas. La solution nous est donnée au cœur du développement de iure, quand le déclamateur indique qu'il est en train de plaider en droit et pas encore en équité. « Je ne m'appuie pas d'emblée sur l'équité », nous dit-il, « en disant combien il est juste que soit tué celui qui a commis une injustice, puisque celui qui l'a subi est morte. C'est du droit que je parle. » L'aequitas que le père pourrait exploiter ici correspond donc au principe d'équité porté par le jus ulciscendi. Et le pathos employé par la tractatio n'est pas un développement interchangeable au contenu vaguement moral. La souffrance du père sert à souligner combien il est nécessaire de respecter le jus ulciscendi. Et le rhéteur mobilise ici une valeur fondamentale et classique de la notion d'équité. Je passe à mon deuxième exemple, qui sera le dernier, la mineure 254, où le rhéteur cherche à montrer qu'un exilé doit être à nouveau admis dans la communauté civique alors que la loi l'interdit. C'est par la prise en compte de sa personne, de ses qualités, de ses intentions qu'il fonde son argument de aequitate. Voyons l'équité à présent. Je considère qu'il est digne de demeurer dans la cité. L'expression « dignus qui », « digne de », qu'emploie le rhéteur, se retrouve partout dans le corpus dès qu'il s'agit d'employer ce type d'argument. Et il faut noter que la tractatio est parfois désignée par les rhéteurs par le terme « merita », les mérites. L'enjeu, semble-t-il, est de puiser dans des considérations morales et dans l'appréciation des qualités individuelles la possibilité de créer une exception à la loi, en mobilisant, de manière un peu vague, l'idée de juste rétribution. L'équité serait alors entendue comme un moyen de contester le droit écrit. Mais l'argument, en réalité, ne se comprend que par rapport au type de discours qui est proposé par le pédagogue, qui enseigne ici à ses élèves comment justifier une proposition de loi controversée. Il ne s'agit pas de demander au juge de négliger la loi pour se fonder sur les mérites du jeune homme, mais de prendre en compte la réalité de la situation dans laquelle il se trouve pour créer une loi nouvelle qui rendrait possible le retour de l'exilé. Le déclamateur souligne des questions de iure, mais il est certain que le développement de aequitate qu'il propose exploite la logique de l'aequum qui était décrite par la rhétorique Aérénius. Il ne s'agit pas là d'une divagation conceptuelle, ni d'une opposition au jus, le projet est de fonder dans la vérité de la situation la création d'une nouvelle norme juridique. L'usage de l'équité est ici parfaitement congruent avec la doctrine précédente. Dans ces configurations qui sont coupées du réel, bien sûr, et un peu schématiques, elles s'adressent à des enfants, mais elles sont néanmoins très fines d'un point de vue argumentatif, les pédagogues n'ont donc pas versé dans une approche lâche, qui ferait de l'aequitas une materia où on puiserait de quoi argumenter sans tenir compte du cadre juridique, certes fictif, mais qui est imposé par l'exercice, ou simplement en embrassant n'importe quel argument moral. Au contraire, l'équité des petits écoliers du IIe siècle après Jésus-Christ est singulièrement proche de celle des théoriciens de la fin de la République. L'aequitas me semble être devenue ici une notion parfaitement stabilisée pour la pensée rhétorique. Et l'on comprend que le sens englobant d'aequitas, qui recouvre la totalité de la qualité, n'est pas flou, mais qu'il désigne ce qui est pour nos rhéteurs la valeur peut-être la plus fondamentale de la notion, l'absolue nécessité de prendre en compte la veritas de la situation pour pouvoir argumenter et juger de manière correcte. Le détail du fait, la nature de l'individu, les circonstances, la souffrance, l'utilité, l'honnêteté, les mérites doivent peser dans l'évaluation. Et c'est cette prise en compte qui forme le cœur de l'argumentation de aequitate chez les professeurs. Et l'on constate alors, au terme de ce parcours, que l'équité des déclamateurs et des rhéteurs représente désormais, au premier chef, un principe de correspondance à la réalité. Je vous remercie.